le destin suit son propre cours. Et c'est le destin qui nous a conduits à Casablanca. Le signal « Attachez vos ceintures » s'est allumé. Les tablettes ont été relevées, les dossiers redressés. Le changement de pression a mis les tympans des bébés à rude épreuve. Dans la rangée de gauche, deux mères, le visage voilé, tentaient en vain de calmer leurs enfants. L'un d'eux en particulier, les yeux grands ouverts, fixait avec angoisse la figure dissimulée de sa mère. Imaginez un peu ce que ce doit être que de ne pas voir le visage de sa mère. À moins que ses enfants ne soient habitués. Maman qui, en public, se réduit soudain à deux yeux aperçus à travers la fente du voile. Tout de même. Pour un nourrisson réveillé en sursaut dans un avion, en plein atterrissage, cela constitue sans doute une raison de plus de hurler. Charmant bambin, a marmonné Paul entre ses dents. Encore quelques minutes et on sera posé, lui ai-je dit en entremêlant nos doigts. Comme j'aimerais avoir un charmant bambin, assis à nos côtés, maintenant. Paul a passé un bras autour de mes épaules. Est-ce que tu m'aimes toujours ? J'ai serré sa main plus fort, sentant à quel point il avait besoin d'être rassuré. Bien sûr que oui. À l'instant même où il était entré dans mon bureau, 3 ans plus tôt, j'avais su que c'était l'amour. Quelle est l'expression qu'utilisent les Français ? Le coup de foudre. La certitude immédiate, et oui, foudroyante, que vous avez rencontré l'amour de votre vie. La personne qui va modifier la trajectoire de votre existence, parce que vous savez que... Vous savez que quoi d'ailleurs ? Car c'est ici que survient la grande question. Comment ? Et pourquoi tombons-nous amoureux? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit « C'est lui, l'homme de ma vie ?» Jusqu'à ce que, quelques semaines ou mois plus tard, la réalité de l'autre vous rattrape et vous pousse à vous interroger sur les désirs et les attentes que vous aviez projetés sur lui, vous poussant à vous demander si c'est vraiment l'amour qui vous a égaré à ce point. C'est en tout cas ce que j'ai pensé à l'époque. Mais laissez-moi vous raconter. En toute honnêteté. Je suis tombée instantanément amoureuse de Paul Loyen, et lui-même m'a confié que cette rencontre dans mon bureau avait constitué pour lui, et à sa plus grande surprise, un changement profond de sa raison d'être. Raison d'être. C'est tellement Paul, ça. Il aime les fioritures linguistiques, ce que je continue à trouver attendrissant quand il n'en fait pas trop. Celle-ci contraste de manière saisissante avec la rigueur épurée des dessins grâce auxquels il s'est fait un nom dans le monde des arts graphiques. Et même si, lorsque je l'ai connu, le doute et le manque de confiance commençaient à le miner, je reste fascinée par son talent. En ce qui me concerne, il faut bien avouer que je n'ai jamais eu le moindre don artistique. Ainsi, Paul et moi avons éprouvé la même chose, l'amour au premier regard. Et quand Paul dit que cela s'est fait à sa plus grande surprise, c'est sans doute qu'il ne s'attendait pas à succomber au charme de la femme qu'il était venu consulter pour essayer de remettre de l'ordre dans sa situation financière, plus que préoccupante. Eh oui, je suis experte comptable, une pro des chiffres, le cordon sanitaire entre vos problèmes d'argent et nos chers amis du service des impôts. Il est communément admis que les comptables, et les dentistes aussi, paraît-il, détestent en secret leur profession. Moi qui connais personnellement pas mal d'experts comptables, je peux dire que la majorité d'entre eux, du petit employé local au contrôleur de gestion des plus grandes compagnies, aiment ce qu'ils font. Et je me range sans hésiter dans cette catégorie. D'autant plus que j'ai embrassé la carrière assez tardivement, vers la trentaine. De toute façon, qui a jamais entendu un seul enfant proclamer « Quand je serai grand, je serai expert comptable. » En fait, c'est un peu comme de rouler sur une route dégagée et de se retrouver soudain, après avoir décidé de prendre à droite, dans une impasse. À première vue, la dite impasse semble morose et banale, mais on finit par trouver qu'elle a quelque chose. Quelque chose qui n'appartient qu'à elle. Un sens singulier de la nature humaine. L'argent est la faille le long de laquelle nous avançons en équilibriste. Montrez-moi le bilan en chiffres d'un individu et je pourrai vous dresser son portrait avec une précision de romancière, un tableau qui reflétera son immense complexité, ses rêves et ses ambitions, ses démons et ses peurs. Quand tu regardes ma situation financière, qu'est-ce que ça t'apprend sur moi ? M'a demandé un jour Paul. Direct, très direct, et non sans une nuance de flirt, même si à ce moment-là nous n'étions pas encore devenus intimes et demeurions encore loin de l'être. Il était juste un client potentiel, dont je venais de lire avec attention les livres de comptes terriblement mal organisés. Les difficultés financières de Paul étaient considérables, mais rien d'insurmontable non plus. Le problème était le suivant. Si son salaire de professeur d'université d'État était taxé à la source, les ventes de ses œuvres étaient le plus souvent payées en liquide. Or, il avait négligé de déclarer ses revenus supplémentaires. Ceux-ci ne dépassaient pas 15 000 $ par an, mais cumulés sur 10 années, cela représentait une somme conséquente au cas où quelque inspecteur de l'IRS, le service des impôts sur le revenu américain, particulièrement zélé, réclamerait des arriérés doublés d'une sévère pénalité. De fait, Paul était sous le coup d'un contrôle fiscal à l'époque où je l'ai rencontré. Et au premier courrier de l'IRS, le petit cabinet familial qui suivait ses affaires avait pris peur et lui avait conseillé de prendre conseil auprès d'une personne plus compétente pour ce genre de choses. Moi, en l'occurrence. J'avais acquis une certaine réputation en ville. J'étais celle qu'on appelait pour limiter les dégâts lorsque survenait une inspection fiscale. Quoi qu'il en soit, les problèmes de Paul ne se limitaient pas à quelques 150 000 $ de rentrées non déclarées. Il dépensait sans compter, littéralement, et il était de moins en moins créditeur. Les livres et les vins fins étaient ses principaux vices. Et malgré moi, je ne pouvais m'empêcher d'admirer cet insouciant rapport à l'existence. Voilà un homme qui n'hésitait pas à débourser 180 $ pour une bouteille de Pomerol, mais qui négligeait de payer sa facture d'électricité trimestrielle. Il achetait aussi près de 1000 $ de livres d'art par mois et ne choisissait que les meilleurs fusains et crayons fabriqués en France pour ses eaux-fortes. À lui seul, son matériel à dessin lui coûtait aux alentours de 6000 $ par an. Et lorsqu'il passait ses vacances d'été dans le sud de la France, hébergé gratuitement par un ami à Aise, un village médiéval, il pouvait claquer l'équivalent de 10 000 $ en diverses explorations gastronomiques. C'est cela qui m'a d'emblée frappé chez Paul Loyenne. Ce don qu'il avait, contrairement à la plupart de nous autres, membres de la classe laborieuse des adultes, de ne pas s'embourber dans la grisaille du quotidien. Et puis j'avais toujours rêvé de tomber amoureuse d'un artiste. On est souvent attiré par ce qui va à l'encontre de notre nature. Mais suis-je vraiment allée contre mon instinct quand j'ai cédé à mon coup de foudre pour Paul ? Ou bien ai-je simplement entrevu dans ce grand échalote artiste tout en muscles et en air, avec ses longs cheveux grisonnants, son jean, son sweatshirt à capuche et son blouson en cuir uniformément noir, ses converses montantes, la possibilité d'une aventure, une échappatoire au train-train dans lequel ma vie s'enlisait chaque jour davantage. Au cours de ce premier entretien professionnel, il a remarqué en plaisantant que l'imbroglio financier dans lequel il se retrouvait lui faisait penser à une toile de Jackson Pollock, puis s'est attribué la personnification du mot français « bordélique », comparable à un bordel, et dans le plus grand désordre, ainsi que je l'ai découvert plus tard en cherchant dans le dictionnaire. J'ai tout de suite été séduite par son évidente énergie et sa curiosité débordante. Dans le sac à dos ouvert qu'il avait posé négligemment au pied de sa chaise, j'ai pu apercevoir un fouillis de carnets de croquis, de trousses à crayons, le dernier numéro du New Yorker et celui du New York Times, ainsi qu'un recueil de poèmes de Louis MacNeice, un nom que je me suis empressée de rechercher sur Google ensuite. Et aussi, il y avait quelque chose de désarmant dans la candeur avec laquelle il a reconnu être une « catastrophe financière ambulante » et avoir besoin de quelqu'un qui le prendrait en main pour le transformer en adulte responsable. Vos livres de compte me diront tout, ai-je déclaré. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que Paul Loyon était déjà sérieusement dans le rouge. Ses cartes de crédit accumulaient un débit de près de 20 000 $,